Radio Spirale. Entre 1967 et 1980, le programme Challenge for Change Société Nouvelle de l'Office national du film a permis de produire plus de 250 films et vidéos résolument militants dans le but d'éveiller les consciences communautaires et politiques. Marion Froger, William Straw et Thomas Woe tracent un bilan de cette époque.
Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette première, une première causerie organisée par l'Observatoire du cinéma au Québec que j'ai le plaisir d'animer avec la collaboration de Denis Héroux, professeur invité à l'Université de Montréal et producteur et cinéaste que vous connaissez déjà sûrement. Et donc, l'Observatoire du cinéma au Québec qui a comme objectif de promouvoir les études sur le cinéma au Québec, sur le cinéma québécois, mais pas exclusivement. Et nous avons donc eu l'idée de faire à chaque session, chaque semestre universitaire, une causerie autour d'ouvrages publiés dans les années ou les mois qui précèdent. Donc, nous lançons cette nouvelle activité ce soir. Je remercie tous les participants de leur collaboration. Je remercie bien sûr ma collègue Michel Garneau qui a accepté de cette soirée. Et je dirais que nous sommes très heureux d'avoir devant nous trois représentants donc de trois universités. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les universités de Montréal et éventuellement du Québec se parlent un peu plus et fassent en sorte que les débats puissent nous réunir plus souvent. Donc voilà, ben bravo à tous et merci à tout le monde qui à vous tous qui êtes présents pour cette première et j'espère que vous serez là pour la deuxième édition. Merci.
Merci André. Alors bonsoir. J'ai envie de commencer de manière interrogative. Je ne sais pas si c'est une simple coïncidence que deux livres importants sortent presque en même temps sur l'Office national du film. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a voulu les faire coïncider, ces deux ouvrages sur l'ONF. Ces deux ouvrages de surcroît se penchent sur un moment de l'histoire de l'ONF où on reconnaissait l'ONF, l'institution, la sphère politique, où on reconnaissait au documentaire un véritable droit de cité. On a intitulé la table ronde, le documentaire dans la cité. Et donc, cette période est vraiment une période qu'on a caractérisée d'ailleurs comme l'âge d'or de l'ONF. Les deux ouvrages en question, je pense, sont très utiles pour nous faire comprendre les tenants et aboutissants de cet âge d'or ou de cette importance du documentaire pendant cette période, hein, qui est la période entre 1967 et 1980, 85. Bon, Marion va jusqu'en 1985, on verra tout à l'heure pourquoi en lui posant la question. Alors, on a voulu, donc, est-ce que c'est une coïncidence? J'en sais rien, mais on a voulu les faire coïncider, ces deux réflexions sur l'ONF. Donc, en invitant les auteurs à venir en parler, à réfléchir à la place du documentaire dans la cité, mais je devrais peut-être dire dans la communauté, puisque c'est un terme qui est à l'honneur dans les deux ouvrages, dans le terme de communauté. On verra ça tout à l'heure un petit peu, quelles sont les différences d'acceptation du terme de communauté dans les ouvrages en question. Dans le désir de communauté, dans l'activation de ce désir par la médiation audiovisuelle, par le documentaire donc qui porte en lui depuis ses débuts, bon, je pense notamment à L'homme à la caméra, ce désir de communauté. Alors, je tiens à souligner la présence de Will Straw auprès de nous, hein, Will Straw qui n'a pas écrit un ouvrage sur l'ONF, bien sûr. Will Straw circule beaucoup entre les universités montréalaises, il circule beaucoup entre les communautés francophones et anglophones, il circule aussi beaucoup entre les médias. Il dirige deux groupes de recherche, un qui s'intitule, j'ai fait la traduction en français, Will, « Médias et vie urbaine », et l'autre groupe de recherche qui s'intitule « Improvisation, communauté et pratique sociale ». Donc, je pense qu'il était tout à fait pertinent d'inviter Will à notre table ronde de ce soir. Alors, merci aux auteurs d'être là et merci à Will. Alors, j'aimerais commencer, pour démarrer la discussion, en demandant aux auteurs, et je commencerai par Thomas Roy, les raisons qui vous ont incité à choisir le corpus qui est le vôtre. Et je précise ici que dans le cas de Marion Froger, bon, le corpus, il y a une certaine différence entre les deux corpus, mais ils sont très proches tout de même. Le corpus de Marion Froger, c'est le sous-titre de son ouvrage, hein, Le cinéma francophone à l'Office national du film, 1960 à 1985. Je précise aussi que c'est une monographie, l'ouvrage de Marion Froger. Dans le cas de Thomas Roy, je précise aussi qu'il s'agit d'un collectif, hein, d'un collectif qu'il a coédité avec Michael Brenda Baker et Ezra Whiten. Et l'ouvrage de cet ouvrage collectif porte plus spécifiquement sur un programme de l'Office national du film, bien sûr, Challenge for Change, Société nouvelle. Alors, donc ma première question que j'adresse à Thomas Roy. J'ai été assez frappée par les deux ouvertures de votre ouvrage. Il y a deux ouvertures, il y a un foreword et il y a une introduction. Et dans le foreword, c'est une conversation avec Naomi Klein. Et ça commence assez fort sur le politique, sur le capitalisme, sur le néolibéralisme, la mondialisation. Bon, tout le monde ici connaît, je pense, Naomi Klein, qui a écrit un ouvrage très connu qui s'appelle « Mon logo ». Nos logos, en 2000, et qui fait un film aussi très important sur les usines en Argentine, la réappropriation par des ouvriers argentins des usines abandonnées par les multinationales. Donc, j'étais assez frappée par l'aspect politique de cette ouverture. Et je voulais vous demander si, dans votre introduction d'ailleurs, vous amorcez, pour présenter le programme Challenge for Change Société Nouvelle, vous commencez avec les coupures du gouvernement conservateur Harper dans le domaine des arts. Et je me demandais si ce projet sur ce programme Challenge for Change Société Nouvelle n'était pas en partie déterminé par une sorte de... j'allais dire d'indignation politique ou en tout cas d'inquiétude politique qui évidemment contient la question du documentaire dans la cité.
On a invité Naomi parce que, comme vous savez peut-être, elle est la fille d'une des pionnières de Challenge for Change, Bonnie Cher Klein. Naomi avait 2 ans quand sa mère avait fait médecine communautaire et... DTR Saint-Jacques, et je crois que sa génération de militantes cinématographiques, communautaires, est très pertinente à notre projet. Je reproche peut-être d'ailleurs à sa génération d'oublier leurs ancêtres un peu, leurs ancêtres comme cette génération de cinéastes. Et c'est un rappel pour leur rappeler de ne pas réinventer la roue, hein, parce que ils le font. Et ils oublient que ces cinéastes avaient fait à cet âge d'or, comme vous voulez décrivez, ont fait 230 films exemplaires, et il faut s'en souvenir, et ils sont très pertinents à l'époque actuelle avec les coupures de budget pour les arts, avec le virage idéologique, je pense que c'est notre devoir de les regarder, ces 230 films, j'espère qu'avec ce bouquin, Michael et Ezra et moi, on a fait ce défi à nos lecteurs. D'ailleurs, Ezra et Michael regrettent de ne pas être ici ce soir. Ils écrivent tous les deux la mémoire de doctorat, donc vous
ce
allez
sont
les,
des thésards.
Les excuser.
Alors, mais je reprends un peu ma question parce que je voudrais que vous me parliez un peu de ce choix, de pourquoi est-ce que vous avez voulu vous pencher plus particulièrement, mais plus particulièrement parce que votre ouvrage ne porte que sur ce programme. Quelle est sa particularité de ce programme dans l'histoire de l'ONF? Parce qu'il a une particularité, vous parlez, vous, de « activist documentary ». Est-ce que c'est la seule période dans l'histoire de l'ONF où on peut parler de « activist documentary » ou est-ce que c'est quelque chose de différent, enfin, par rapport à d'autres formes de documentaires engagés ou politiques de l'ONF? Est-ce qu'il y a une différence très fondamentale avec la production de l'ONF, l'histoire de l'ONF?
Je pense que le documentaire activiste a émergé pendant toutes les époques, toutes les périodes de l'ONF, mais cette génération-là de la fin des années 60, les baby boomers, les new left, la nouvelle gauche, étaient vraiment particulières. C'était aussi la génération qui a été la première à se servir du porte-pack de Sony. Et je pense que l'esprit utopique de la période a transformé vraiment l'ONF. Donc, c'est vraiment unique. Et je pense que depuis 1980, on a essayé de réinventer le Challenge for Change, Société Nouvelle, mais jamais on a vraiment eu cette envergure de cette énergie. Et d'ailleurs, je dois préciser que mon titre, notre titre original était Challenge for Change, Société Nouvelle. McGill Queen's Press ont pensé que ça allait confondre aux acheteurs américains avec un peu de français dans le titre. Donc, on est obligé à aller avec l'anglais, Challenge for Change. Et il y a pas mal de cinéastes du côté Société Nouvelle qui n'ont pas apprécié ça du tout.
Je demanderai maintenant à Marion, je poserai un peu la même question à Marion sur le choix du corpus. Je pense, Marion, j'ai envie de poser une question indiscrète parce que je connais un peu l'histoire, la genèse de cette thèse de doctorat. Je pense que ça a été assez décisif, ce corpus, ce corpus cinématographique, mais je pourrais aussi parler de la chanson québécoise qui était aussi assez décisive dans ta découverte de la culture québécoise. Mais ça a été tout à fait décisif dans ta théorisation du documentaire, cette période de l'ONF, la fabrication du film et sa réception comme une épreuve de la communauté. Alors, j'aimerais que tu nous parles peut-être un peu justement de ce choix, de ce corpus dans l'élaboration de ta théorisation du documentaire.
Alors, il n'aura peut-être échappé à personne que le cinéma francophone de l'Office national du film 1960-1985 ne recouvre pas exactement les dates de Challenge for Change et Société Nouvelle. Challenge for Change et Société Nouvelle ont commencé en 67-68. Ce sont plus ou moins arrêté en 76, en tout cas entre 76 et 80, on va dire, avec un dernier film peut-être en 1980. Moi, j'ai croisé en fait Société Nouvelle et Challenge for Change. Mon intérêt se portait sur un documentaire que j'ai vu d'abord d'une façon très brouillonne, c'est-à-dire que je suis arrivée effectivement à Montréal en 1995. Un mois avant le référendum, donc j'étais confrontée à une certaine urgence de savoir ce qui se passait dans ce pays. Donc je suis allée à l'ONF et j'ai vu tout ce que j'ai pu voir en termes de documentaires qui se jouaient dans les années 60 et les années 70. Pour après m'apercevoir qu'il y avait déjà un premier référendum, alors là j'ai continué jusque dans les années 80, pour simplement comprendre en un mois, à peu près, ce qui est en train de se jouer au Québec. Donc, je ne l'ai pas fait d'une façon systématique. J'y suis allée vraiment au petit bonheur, en m'apercevant qu'un tel avait travaillé sur un tel, avec un autre tel qui était là. Donc, j'ai découvert ça d'une façon complètement, je dirais, anachronique, brouillonne, bricoleuse, on va dire. Et avec le sentiment qu'il, justement, Thomas Roy parlait de l'esprit d'utopie, d'une énergie particulière, de quelque chose qui était très rassembleur tout en étant très dispersé, hein, puisqu'on avait quand même les francophones, les anglophones, ce programme qui était vraiment orienté vers l'activisme politique, d'autres films qui étaient beaucoup plus formalistes, hein, qui avaient beaucoup d'ambitions complètement artistiques, qui n'étaient pas du tout spécialement, qui n'avaient pas les mêmes objectifs. J'avais quand même l'impression, et c'est pour ça que j'ai parlé des preuves de la communauté, qu'il se jouait là quelque chose qui était de l'ordre, effectivement utopique, d'une réinvention d'une forme de communauté. Porté par certaines idées de ce que devrait être la communauté, donc par un certain idéal de la communauté, avec des repoussoirs, ce qu'on ne voulait pas que la communauté soit, ou la manière dont on la voyait évoluer et se transformer dans les années 60, générait beaucoup d'angoisse aussi sur cette notion-là. Donc j'avais le sentiment qu'il y avait une urgence en 1960, perte d'une communauté, d'une communauté ancienne, angoisse par rapport au changement et volonté farouche d'en réinventer une nouvelle. Voilà. Donc, je me suis dit, cette chose-là se manifeste peut-être partout. Alors, elle se manifeste dans des choix esthétiques, elle se manifeste dans des programmes beaucoup plus orientés vers la médiation sociale, elle se manifeste dans des films politiques. Je l'ai vu un peu se répandre. Et à mesure que je voyais les films, j'avais le sentiment qu'effectivement, il y avait une volonté de, non seulement de réinventer la communauté, mais de refonder le lien social, de repartir sur de nouvelles sociabilités, d'utiliser même le cinéma pour réinventer la relation à l'autre. Qu'est-ce que ça fait qu'introduire une caméra dans une expérience? Est-ce que ça change nos rapports entre intellectuels et ouvriers? Est-ce que ça change nos rapports entre membres des communautés marginalisées et universitaires? Enfin, il y avait cette idée de réinvention du lien social qui était très forte, et qui était très forte aussi dans Challenge for Change. Là-dessus, si je suis allée jusqu'en 1985, c'est qu'il m'a semblé que c'était une génération. Donc 20, 25 ans d'une génération qui, et j'ai clos, enfin d'une façon un peu arbitraire, mon corpus en 1985, parce que à ce moment-là se faisaient les premiers films réflexifs qui revenaient sur l'expérience. 1985, c'est la première fois que l'on fait, dans les années 80, il y a Charade chinoise de Le Duc, qui revient sur les années de militantisme. Il y a Sur les traces du rêve de Lafont, qui refait tout le parcours de Perrault. Il y a deux ou trois films comme ça qui, on a l'impression, qui essayent de clore la période, ou qui essayent de prendre la mesure de cette période, de ce qui vient de leur arriver, en fait. Qu'est-ce qui nous est arrivé, hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Donc ça, c'est un peu le... Alors, ça m'a posé des maux de tête, hein, mon corpus. J'avoue qu'au départ, j'étais pas très à l'aise avec mon idée de corpus, parce que je ne prenais pas un programme, je prenais pas, je dirais, un seul groupe de cinéastes. Je prenais même pas uniquement le cinéma documentaire, je parle un peu de la fiction, et en plus je prenais même pas uniquement le cinéma francophone, puisque je m'intéresse quelquefois aussi à ce qui s'est passé du côté anglophone. Donc j'avais un problème de corpus, et je pense que ce corpus s'est dessiné grâce à cette idée de génération, d'énergie et d'urgence à réinventer quelque chose à l'aide du cinéma. Pour plusieurs raisons, je pense, on peut peut-être en discuter. Pourquoi le cinéma, pourquoi la vidéo avec le porte-à-pack a joué à ce moment-là ce rôle particulier? Bon, peut-être que là-dessus, on pourra peut-être plus en discuter, mais c'est à peu près ce que je pourrais dire sur mon corpus.
Voilà. Je voulais demander à Will Strauss si dans les autres, on parlait d'esprit d'utopie à l'égard de ces années-là à l'Office national du film, notamment bon, à travers le corpus que couvert Marion, à travers Challenge for Change, Société Nouvelle. Dans les autres médias ou dans... parce que vous avez beaucoup travaillé à partir des journaux, des magazines ou même la chanson, est-ce que cet esprit d'utopie, on le retrouve dans les autres médias?
Mais sûrement à cette époque-là, on le trouve dans le cinéma de fiction, dans la musique populaire, dans la littérature. Mais ce qu'on trouve dans, en fait, dans les films du programme Société Nouvelle qu'on n'a pas trouvé dans ces musiques-là, ces autres films, c'est en fait c'est un réformisme, un intérêt pour la pauvreté, pour les problèmes sociaux. Alors l'utopisme qu'on voit dans toute la contre-culture des années 70, fin des années 70, avait peu à voir avec les problèmes sociaux du genre de pauvreté, régionalisme, etc.
Mm-hmm. Peut-être pour donner un peu une idée à l'auditoire, bon, tout le monde n'est pas spécialiste de l'Office national du film, tout le monde ne connaît pas les films ou les séries de Challenge for Change, Société Nouvelle. Est-ce qu'on pourrait parler soit de films phares ou de séries phares ou de films porteurs, annonciateurs ou j'aimerais pour concrétiser un peu cette affaire-là, qu'on parle de films en particulier, peut-être Thomas Soy, est-ce qu'il y a des films plus dans votre ouvrage, en tout cas, qui est divisé en quatre parties, il y a une des parties qui est plus analytique et où les auteurs, il y a beaucoup de contributeurs dans votre ouvrage, hein, c'est un ouvrage très volumineux avec des contributions d'un peu partout au Canada, aux États-Unis, à l'étranger, et donc il y a une partie plus analytique qui porte sur des films en particulier. Vous, notamment, vous avez travaillé sur un cinéaste, et là, vous partagez avec Marion vraiment un point commun, vous avez travaillé sur un cinéaste très important du programme, Maurice Bulbulian. Alors, j'aimerais peut-être que vous m'en parliez l'un et l'autre de ce cinéaste, parce qu'il semble avoir eu une importance assez forte de part et d'autre dans vos ouvrages, dans votre article, notamment Thomas Soy et chez Marion aussi.
D'accord, je pense que c'est très important, parce que plusieurs des historiens de l'ONF n'ont pas vraiment regardé les films. Ils ont interviewé les bureaucrates et ils ont regardé les documents des archives. Mais regarder les films aussi, c'est une archive vivante qu'il faut restaurer continuellement. Et je suis content de ta question, Michel. Bulbulian, c'était évidemment parmi mes préférés de tout cette gamme de cinéastes La Petite Bourgogne, évidemment, c'est un film très spécial qui traite de la communauté de Montréal, La Petite Bourgogne, évidemment, qui a été rasé pendant l'époque drapeau pour les autoroutes et l'expo et la rénovation urbaine. Bulbulian a combiné cette angoisse que tu as mentionnée avec un espoir et une confiance dans l'être humain, les citoyens, les groupes de citoyens, avec un esprit aussi très esthétique. Il n'a pas sacrifié l'esthétique comme quelques-uns l'ont fait. Donc, ses œuvres, ses films sont très poétiques ainsi que politiques. Et dans Petite Bourgogne, quand on rencontre ces gens-là, qui sont très chaleureux, très passionnés, et Bulbulian est également très passionné, et on voit leur environnement, leur environnement en danger et détruit. C'est vraiment très très beau ainsi que très en colère et en même temps ironique. La fin du film, c'est une cérémonie dans laquelle on voit Jean Drapeau et Saulnier et les politiciens de l'époque très très cyniques qui turn the sod, comme on dit en ça, ouvre la construction des nouveaux bâtiments qui vont remplacer les maisons très chaleureuses qu'on a déjà vues. Et il y a un esprit cynique. Il ne laisse pas emporter sa chaleur, sa tendresse. Est-ce que je dis ce que je voulais? Il mélange cet espoir avec un réalisme, un cynisme qui est très pertinent.
Marion, oui, Maurice Bulbulian, tu t'es beaucoup penchée sur les films de ce cinéaste, notamment sa chronique...
Les Chroniques de Nitinat, oui.
Mais ça, c'est plus tard. Oui.
1996, donc... Mais c'est un prolongement, c'est un avatar, je dirais, de Challenge for Change. C'est aussi pour ça que je m'y suis intéressée. D'ailleurs, vous voyez, je me suis intéressée à des films qui dépassent 1985, donc j'avais vraiment un problème de corpus devant moi. Mais j'avais pas un problème de génération, évidemment, puisque Maurice Bulbulian a commencé à la fin des années 60. Il est même à l'origine du groupe de recherche sociale qui est l'embryon francophone de Challenge for Change des sociétés nouvelles avec Fernand Dansereau et Hortense Roy. C'est en ce sein-là qu'il a d'ailleurs fait La Petite Bourgogne. Et puis il a fait aussi un très beau film aussi qui a suivi, qui sont Des lendemains comme hier, qui est un prolongement un peu de sa réflexion autour de ces habitants de La Petite Bourgogne, puisqu'en fait il y a rencontré, en tout cas sur le tournage de La Petite Bourgogne, des gens qui venaient du lac Saint-Jean et qui avaient immigré depuis des années à Montréal pour trouver du travail, une très grosse famille de, je sais plus, je me souviens plus, 8, 10 enfants, quelque chose comme ça, hein, c'est une grosse famille, et qui chaque année retournaient au lac Saint-Jean pour ramasser les bleuets, d'une part peut-être pour arrondir les fins de mois, mais surtout parce qu'il y avait un attachement extraordinaire à cette terre et à ce paysage, à cette vie qu'ils avaient laissée derrière eux et qu'ils voulaient transmettre coûte que coûte à leurs enfants. Malgré le fait que leurs enfants, ben, ils avaient grandi en ville et qu'ils n'étaient pas forcément intéressés par la nostalgie des parents. Mais ce qui m'avait frappé à l'époque, et je crois que c'est ce que j'ai retrouvé aussi chez Perrault, que j'ai retrouvé chez d'autres cinéastes de cette même période, c'est de vouloir revenir au fondement de la communauté. Qu'est-ce que c'est qu'être une communauté ? C'est habiter. C'est habiter. C'est peut-être la chose la plus basique, je crois. Et donc, habiter et transmettre. Habiter, transmettre. Et là, il y avait quelque chose qui se jouait chez Bulbulian. J'avais l'impression que s'il n'avait pas laissé tomber l'esthétique, qui m'avait frappé aussi au hasard de mes butinages complètement aveugles, puisque je ne savais même pas qui pouvait être important, ce Bulbulian, à l'époque où je le regardais, c'était de garder l'esthétique pour dire ça. Pour dire simplement que, finalement, à une époque où le Québec se formait comme État moderne, parce que 1960, c'est la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, c'est la technocratie, c'est l'État moderne, c'est les grands plans d'aménagement à la fois urbain, d'où le fait que la Petite Bourgogne soit détruite, parce qu'on fait un plan d'aménagement urbain. On enlève aussi, ça c'est ce que va découvrir Perrault dans les années 70, en Abitibi, on déracine les gens qui avaient défriché certaines terres, et on dit que c'est plus rentable, qu'on peut pas entretenir ces endroits-là. Donc on essaye de ramener ces gens-là vers la ville. Donc on fait de la planification urbaine, de la planification régionale, de la planification agricole, ce que j'appelle l'état technocratique. Et là-dedans, il y a vraiment le sentiment d'une perte. Et je crois que les auteurs comme Bulbulian et comme d'autres ont été extraordinairement sensibles à cette dimension-là. Et quand ils ont voulu faire du cinéma social, même politique, alors surtout pour Bulbulian, parce qu'il y avait vraiment l'envie chez Bulbulian de faire aussi un cinéma assez politique, un cinéma qui redonne du pouvoir aux citoyens pour qu'ils décident de ce qu'ils veulent faire, c'est par eux-mêmes, qu'ils ne laissent pas la décision aux technocrates et aux politiques. Il y avait quand même l'idée de refonder tout ça sur le sentiment d'habiter quelque part et de transmettre quelque chose. Et ça, c'est ce qui reste chez Bulbulian, en fait, jusqu'en 1996, où là, il travaille avec les autochtones de la côte ouest, et il est confronté à tout ça en même temps, à toutes ces problématiques-là en même temps, parce que c'est une communauté qui est en train d'être détruite et de se détruire de l'intérieur, et il faut tout rebâtir aussi avec cette communauté, et il va utiliser le cinéma. Comme au bon vieux temps du porte-à-pack, c'est-à-dire en enregistrant les gens pour qu'ils puissent se parler, pour qu'ils puissent s'adresser la parole dans une situation de crise. Il va mettre des années à faire son film, 8 ans à faire son film. Il va toujours impliquer les autochtones non seulement dans le visionnement des roches, mais du montage. Il va jamais laisser partir son film sans leur acquiescement. Donc il va remettre en en principe, en 1996, tout ce qui avait été élaboré au sein de Challenge for Change 30 ans plus tôt. Donc il va vraiment utiliser ce qu'il avait appris à ce moment-là, en 1996, pour faire ses films avec les autochtones. Donc oui, c'est Bulbulian, c'est vraiment quelqu'un de, d'important, je crois, dans ce parcours-là, parce qu'il synthétise un peu tous ces aspects-là.
Sur lui ou sur...
Parce que, en fait, j'ai un peu découvert ce film-là dans le livre. Je me suis rendu compte jusqu'à quel point je les ai vus à travers 20 ans, mais ça m'a donné une meilleure idée de ce qu'il était. Pour moi, mon premier souvenir des films de la Société Nouvelle, je m'en souviens très, très bien parce que c'est une expérience presque traumatique qui m'a marqué quand j'étais jeune. Mon père était pasteur dans l'église anglicaine, puis comme beaucoup d'autres pasteurs vers la fin des années 60, il a commencé à projeter des films documentaires dans le sous-sol de l'église. Alors, et le premier film dont je me souviens très très bien, c'est The Things We Cannot Change, en fait, un des films. Et si je me souviens bien, on voit la naissance d'un bébé dans le film, parce que oui, puis on voit il y a des choses qui sont restées avec moi.
Pas à l'écran, mais
non, mais okay, peut-être oui, oui. Ça, je l'ai imaginé, je l'ai reconstruit depuis. Puis, mais c'est ça, je voulais juste dire jusqu'à quel point ces films ont circulé, commencé dans les sous-sols d'église, dans les centres communautaires. Puis, c'était pour moi, je ne viens pas d'une famille riche, mais c'était une image d'une famille pauvre, urbaine, que je n'avais pas vue, sûrement pas à la télé et pas ailleurs jusqu'à ce point-là. Alors, c'est pour ça, c'est une de mes expériences du cinéma les plus marquantes de toute ma vie. J'ai vu des milliers et des milliers et des milliers de films depuis.
Oui, ce film « The Thing I Cannot Change » de Tania Ballantyne. En 1967, hein, c'est un des tout premiers films de la série qui a marqué toute une génération, j'ai envie de dire, enfin, ça a parti une balle en quelque sorte, ce film-là, je crois. Hein. Vous avez d'ailleurs dans votre ouvrage, il y a un article sur ce film en particulier. J'imagine d'où son importance.
Qui a essayé de renouveler sa réputation, parce que le film a toujours été le cible de critiques sur le plan éthique. Et Brenda Longfellow, notre contributrice, a essayé de défendre un peu, de restaurer ce film.
Oui, justement, je voulais aborder la question de l'accessibilité, parce que, bon, je ne sais pas comment c'était pour toi, Marion, quand tu as commencé la recherche sur les films francophones de l'ONF. C'était pas toujours évident, alors qu'en quelques années, l'accessibilité des collections de l'Office national du film, c'est extraordinaire. Depuis 2-3 ans, on peut rester chez soi, aller sur le site de l'ONF et visionner, je ne sais pas, de plus en plus de films sont sur le site.
Sauf une exception.
Oui, c'est vous abordez ça dans l'ouvrage.
Oui, on n'a pas corrigé les faiblesses de l'époque pour traduire les films français à l'anglais et les films anglais au français. On est resté avec le même aveuglement de l'époque. Donc, des films de Bulbulian, il y en a un seul qui est disponible dans l'autre langue.
Effectivement.
Et les chefs-d'œuvre de Léonard Forêt, de d'autres cinéastes sont pas disponibles dans l'autre langue.
Et est-ce que c'est à venir? Est-ce que vous savez
non.
Si l'ONF
jamais
la décision a été prise de Ah d'accord. Ben effectivement parce que bon pour ceux qui connaissent pas les films les films de l'ONF tout court mais les films du programme, moi je réécoutais il y a pas longtemps Saint-Jérôme de Fernand Dansereau. Fernand Dansereau et son équipe avaient décidé de cartographier une ville, Saint-Jérôme en 1900 et des mois, on est en 1968. Et pourtant, j'étais quand même sur le site de l'ONF devant mon ordinateur. Et effectivement, il n'y a pas de sous-titres anglais, c'est sûr. Mais c'est fulgurant comme début de film. C'est quelque chose. C'est vraiment une expérience. C'est le documentaire de l'époque. On voit se mettre en place
place très très rapidement quand on regarde ce film, toute une énonciation collective par le montage et une solidarité collective aussi. Il y a une force qui se dégage du film et les preneurs photo, les preneurs de son, bon, je ne sais pas qui était sur ce film, mais c'est bouleversant, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et Saint-Jérôme, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Moi, j'ai pas vu tous les films de ce programme parce qu'il y en a plus de 200, comme vous le disiez. Beaucoup plus du côté anglophone. Je pense qu'il y en a 100, il y en a 65 du côté francophone et quelque chose comme 140 du côté anglophone. Moi, j'ai appris des choses parce que je pensais que je connaissais un peu l'histoire de l'ONF, mais j'étais persuadée, et là, peut-être que je vais pouvoir rejoindre la culture cinématographique du public. Bon, parce qu'il y a des films du côté francophone qui sont des films qu'on a tous en mémoire. Et j'étais persuadée, moi, que ces films-là, et là, je pense notamment à On est au coton, je pense notamment à 24 heures ou plus de Gilles Groulx, On est au coton, c'est Denis Arcand, Un pays sans bon sens de Pierre Perrault. J'étais persuadée que ces films-là faisaient partie du programme Challenge for Change Société Nouvelle et qu'elle ne fut pas ma surprise de constater que c'était pas le cas. Hein. Donc, au moment où il y avait ce programme à l'ONF, quelle importance avait ce programme dans la production parallèle de l'ONF? Parce que les trois films que je viens de citer ont été des films censurés, bon, qui ont eu quelques problèmes avec la censure, et le programme Société Nouvelle Challenge for Change, qui est au fond, et c'est ça qui est fascinant, c'est l'État, via son agence culturelle, qui promeut le changement social. Hein, c'est quelque chose tout de même. Je pense pas qu'on pourrait retrouver ça aujourd'hui. En fait, on le sent pas aussi fort à l'Office national du film aujourd'hui. Mais là, on a un encadrement institutionnel de l'action communautaire par la médiation audiovisuelle qui est absolument fascinante et qui explique. Enfin, qui explique peut-être que ces films-là de ce programme-là ont pas eu trop mal à partir avec la censure par rapport à d'autres. Je sais pas comment est-ce qu'on peut comment vous voyez ça. Parce qu'il y a eu des problèmes. On a toujours parlé de ce programme-là comme d'un programme de plus en plus controversé tout de même. Plus on avançait, plus ça devenait controversé. Alors j'aimerais peut-être que vous nous parliez de ce qui s'est passé exactement, les dessous de ce programme-là au niveau politique aussi.
Il y a eu des controverses, évidemment, des deux côtés, anglais et français, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu des cas de censure. Non. C'était réservé pour les cinéastes vedettes comme Arcand et Gourd. Et par contre, les budgets de Société Nouvelle et de Challenge for Change étaient moins importants que les budgets pour les cinéastes vedettes. Même si on regarde Les Filles du Roi de Anne-Claire Poirier, c'est un long métrage assez luxueux, c'est dispendieux assez à nos yeux d'aujourd'hui. Et il y a eu surtout au côté anglais, il y a un peu de snobisme envers le Challenge for Change. C'était vraiment pas les vrais artistes qui faisaient ça. Okay. Ils étaient des social workers, des travailleurs sociaux, un peu. Et les films étaient pas vraiment très beaux, très esthétiques. Ils étaient un peu instrumentalistes. C'était moins vrai au côté français, où il y a eu un genre de nouvelle vague qui était très influencée par Godard et les Brechtiens européens comme Anne-Claire Poirier et Boudoulian et quelques-uns des autres. Et les films de Société Nouvelle étaient plus longs que les films anglophones. Le moyen, j'ai même calculé ça, le moyen durée des films francophones était presque une heure, tandis que au côté anglais, c'était 24 minutes. Et les Anglais regardaient les francophones comme un peu trop lents, un peu trop poétiques, un peu trop lyriques, et ils manquaient de punch. Et un peu trop, Boubouillon m'a dit ça, ils étaient un peu trop happy-go-lucky, les francophones. Donc, mais les controverses politiques étaient plutôt au niveau local, régional, plutôt que national. Effectivement, quand les films dans tant que femme, la série féministe ont été diffusées sur Radio-Canada. À ce moment-là, il y a eu beaucoup de controverses, mais rien qui menaçait vraiment le programme. Les controverses ont affirmé la réussite de la série plutôt que le mettait en péril.
Peut-être aussi parler de Fogo Island, parce que c'est aussi par ça que tout commence, je crois.
Lequel?
Fogo Island.
Oui, oui, oui.
Donc, avec mon accent anglais terrible, je me fais comprendre à chaque fois. oui, parce que ce film-là, en fait, a lancé une interrogation qui a été, à mon avis, exploitée à la fois par les cinéastes d'un côté et acceptée par les autorités institutionnelles. C'était l'idée que, finalement, l'État avait intérêt à ce que les communautés se prennent en charge. Bon. Donc, elle avait intérêt à ce que, dans les situations, dans des pays d'extrême pauvreté, où il y avait des problèmes localisés de chômage, de mauvais développement régional, il y a un relais sur place avec qui dialoguer. Parce que le problème de, je pense que l'État voyait en fait dans ce rassemblement de citoyens des interlocuteurs avec qui travailler éventuellement pour effectivement faire avancer le pays d'un point de vue économique et social. Donc du coup, ils étaient intéressés forcément par un projet qui visait effectivement à créer des comités de citoyens, à ce que les gens se prennent en main. En même temps, les cinéastes qui étaient sur place, eux, faisaient un travail social. C'est-à-dire qu'ils étaient confrontés à des gens qui n'avaient pas forcément envie de collaborer avec l'État, mais qui avaient peut-être beaucoup de choses à dire sur le fait que l'État voulait les prendre en main. Et qui avaient eux-mêmes une résistance terrible au fait que l'État voulait développer des programmes d'aide. Donc c'était un peu schizophrénique, je crois, le programme à un moment donné, parce qu'on avait un État qui voulait que des comités de citoyens se mettent en place à un niveau local pour avoir des interlocuteurs sur place, pour faire progresser certaines choses, et éventuellement faire avaler la pilule de l'aide étatique, donc de ce welfare généralisé qui était la panacée à l'époque des années 70. Hein, c'est comme ça que l'État finalement fédéral se justifiait un petit peu. Et en même temps, des cinéastes qui étaient confrontés à une population qui voulait vivre sa communauté, sa socialité, sa politique, sans recourir à l'État, en voulant se prendre en main tout seul, c'est-à-dire en étant fier d'être autonome, et qui ressentait la politique d'aide comme étant une politique très humiliante. Donc on a une sorte de, je dirais, de conflagration à ce moment-là qui était très intéressant entre un programme financé pour des raisons assez politiques et en même temps sur le terrain des cinéastes qui découvrent des gens qui ont quelque chose à dire, qui ne va pas forcément dans le même sens que l'État le voudrait, et qui leur donne la parole, parce qu'ils sont sur place, parce qu'ils sont là pour, effectivement, ils sont animés par une utopie, une utopie de reconstruction communautaire. Et c'est ce qu'on sent dans certains films, comme dans le film « Chez nous, c'est chez nous aussi », où j'ai été frappée, je l'ai mis dans mon bouquin, cette phrase qui correspondait exactement à ce que disait Félix Leclerc à la même époque. Donc c'est une phrase où on déplace des populations, c'est un film où on voit des populations qui se déplacent, la région est trop pauvre pour faire vivre la communauté, donc on demande aux habitants de vendre tout ce qu'ils ont à l'État et d'aller dans la ville la plus proche. Et il y en a un qui dit « Je n'aime pas la ville, on se promène sur ces trottoirs, on a tous l'air désœuvrés, c'est comme si on était des morts. » Enfin, il dit quelque chose comme ça, et on retrouve exactement cette même phrase dans un texte de Félix Leclerc à l'époque, « Enlève le travail à un homme et ça fait des morts qui passent. » Donc, on a cette schizophrénie un peu qui apparaît peut-être plus dans le programme. Enfin, moi, j'ai plus vu parce que j'ai plus fréquenté le programme français. Je ne sais pas si c'est la même chose dans le programme anglais, mais il y a quand même cette idée-là, cette sorte de paradoxe d'une volonté bureaucratique d'emprise et de développement qui passe par l'État, qui passe par la hiérarchie ces politiques, et sur le terrain, des gens qui veulent bien se prendre en main, mais pour affirmer leur autonomie et le fait qu'ils peuvent se faire tout seuls et fonctionner tout seul. Donc voilà, je pensais un peu ça, le succès en fait de Challenge for Change, et le fait qu'on ne l'ait pas très bien compris, parce qu'on n'a pas toujours pris en compte ces deux dimensions-là de la chose.
Oui.
On n'a pas très bien compris. Tu dis, je voulais revenir à cette question de la communauté parce que c'est un terme qui, bon, que vous travaillez, que vous avez rencontré et que vous utilisez dans des titres de projets de recherche aussi. Dans ton cas, Marion, tu fais une distinction quand même assez nette entre des communautés déjà constituées, avoir un cinéaste, une équipe de cinéastes qui part vers une communauté quelconque, et la question du film comme pouvant susciter, bon, la question du film, c'est-à-dire la question de la médiation audiovisuelle, tous ces acteurs que sont le sujet filmant, les sujets filmés, les spectateurs, qui, par cette expérience relationnelle, c'est ton expression, le documentaire est une expérience relationnelle qui implique plusieurs acteurs et même une forme de don. La question de la communauté, c'est pas seulement les communautés déjà constituées vers lesquelles vont le cinéaste et son équipe, mais qui peut provoquer, hein, susciter, recréer un désir de communauté ou de la communauté. Hein. Ça, c'est quelque chose c'est une distinction que tu tiens à faire. Et peut-être que tu pourrais par là, on pourrait revenir sur ton titre parce que je voulais te poser une question un peu torvis. Je me demandais si on interchangeait ton titre, est-ce que ça marcherait encore ou ça marcherait plus? Parce que ton titre, c'est « Le cinéma à l'épreuve de la communauté ». Est-ce qu'on pourrait l'interchanger? Je pense que c'est non, mais peut-être que par la communauté à l'épreuve du cinéma. Est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on
peut tout faire?
Parce que, oui, on peut tout faire, mais ton... Mais c'est la question, au fond, c'est la question, ce qui semble t'intéresser, c'est... Peut-être, j'ai l'impression que c'est plus que peu le cinéma documentaire, oui, que la question des communautés qui potentiellement ont été transformées par un désir de communauté. Enfin, je voulais que tu reviennes un peu là-dessus parce que ça me semble intéressant comme enjeu.
En fait, on peut revenir. Bon, je parlais tout à l'heure de la première fois où j'ai vu les films de cette période-là en 1995. Je faisais pas ma thèse à l'époque. Hein, j'étais étudiante en échange ici, donc j'étais loin de décider de faire ma thèse. J'ai commencé à la faire dans les années 2000. Ce qui était sûr, c'est qu'au début où j'ai fait ma thèse, bon, j'avais pas forcément cette idée de communauté en mémoire, parce que justement, on utilisait la question de la communauté, et d'ailleurs beaucoup dans les publications anglophones aussi, comme étant une référence à une entité, une réalité. Il y a des communautés, la communauté d'un quartier, la communauté d'un groupe qui se déclare des intérêts communs, donc voilà, les communautés existent, la communauté existe. Et peut-être parce que j'étais en exil, peut-être parce que j'étais moi-même en rupture avec ma propre communauté, mais non, la communauté, c'est une vue de l'esprit. C'est quelque chose que l'on fait être pour des raisons ou des objectifs précis qui peuvent être politiques, qui peuvent être culturels, qui peuvent être identitaires, mais ça n'a aucune réalité. Et puis après, j'ai croisé effectivement tout ce qu'il y avait, ce qu'on avait écrit sur les communautés imaginaires. Donc, ça a un peu alimenté ma réflexion. Et en même temps, j'avais envie de dire oui, ça n'existe pas, mais le désir lui existe. C'est-à-dire, le fait de vouloir la faire existe. Le fait de vouloir la construire existe. Et ce désir-là, il n'est pas... En fait, il est cadré. Il s'inscrit dans des dispositifs, il s'inscrit dans des possibilités, il s'inscrit dans une histoire. Et je pense qu'à un moment donné, dans Challenge for Change, ils veulent faire une communauté, et c'est une communauté, ils veulent pas forcément aider les communautés existantes, ils veulent créer une communauté participative et collaborative. C'est-à-dire qu'ils veulent transformer, on parlait de transformation sociale, ils veulent transformer les relations entre les personnes pour en faire éventuellement une force nouvelle politique. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, certaines époques ont une certaine idée de la communauté. Et c'est ça qu'ils poursuivent. Et dans le cas de Challenge for Change, il y avait cette idée qui passait par la démocratisation des outils de communication et qui passait par la démocratie participative. Donc ils avaient quand même... il y avait une forme là-dedans. Hein. Ils avaient, je dirais, ils étaient guidés par quelque chose qui était assez précis dans leur tête. Quand on regarde les écrits qui entourent ce programme-là, on sent qu'ils y ont pensé à leur affaire et qu'ils savent ce qu'ils sont en train d'inventer. Alors que les autres sur lesquels j'ai travaillé, c'est moins précis. l'idée qu'ils se font de la communauté. La seule chose que l'on sent, c'est qu'ils découvrent qu'avec le cinéma, on peut peut-être réinventer le relationnel, et ça ouvre peut-être sur une autre façon de vivre ensemble. Alors que dans Challenge for Change, il y a vraiment une idée précise de la forme que ça doit prendre. Et le rôle du cinéma. Dans les autres films, c'est un peu plus flou. Quand on regarde les films de Perrault, comme Un pays sans bon sens, par exemple, c'est une quête, une véritable quête. Il se demande où est le pays, où est la communauté, qu'est-ce qu'on fait avec ce sentiment ou ce désir de communauté. Il n'a pas du tout d'idée précise de ce que ça doit être. Et il commence à l'avoir avec Horis Larancette. Et puis là, il a mal été compris, je pense, au niveau de ce qu'il a voulu faire avec Horis. Mais on sent qu'il y a... beaucoup plus de quêtes et d'explorations, par exemple chez Perrault, qu'il y en a chez les gens de Challenge for Change, du point de vue de la communauté. Donc pour revenir à cette idée, c'est que la communauté, moi je suis partie avec l'idée que oui, on ne pouvait pas, enfin moi je partais pas avec l'idée de partir des communautés existantes, mais plutôt de partir du désir et de comprendre ce désir en lien avec ce qu'il y avait autour. Que ça pouvait pas être un désir absolu, universel, que c'était toujours quelque chose qui avait une histoire, qui s'inscrivait dans une histoire. Maintenant, c'est vrai que c'est un terme qui, en français, à l'époque où j'ai commencé à le manipuler, était qu'il fallait que je prenne avec des pincettes, parce que c'était la grande époque de la dénonciation du communautarisme en France, donc du modèle américain, du modèle multiculturel, et chaque fois que j'arrivais avec des propositions de communication avec mon mot de communauté, on ne comprenait pas du tout ce que j'étais en train de faire avec ça. On pensait que, effectivement, je prônais le cinéma au service des communautés. Donc, voilà.
Je pense que Will Straw veut réagir parce que.
Oui, mais c'est juste, en fait, pour commencer par dire qu'une des forces de ce livre de Marion, que j'ai lu trois fois, une fois en forme de thèse, une deuxième fois pour le plaisir, puis une troisième fois après avoir été invité ici ce soir, et de remettre sur la table, en fait, par rapport au cinéma, la question de la communauté, parce que même si la question est, comme tu dis, disparue, en fait, c'est aussi en art visuel, en musique, même encore en théâtre, on en parle beaucoup, 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 mais c'est comme si le cinéma est un peu absent du débat contemporain. Je sais que depuis 20, 30 ans, on parle du spectateur, mais pas de la communauté. Alors, je pense que la façon dont on reprend les débats, les pratiques de la fin des années 70, début des années 70, puis tu les vois à travers le prisme de toutes les théories actuelles de la communauté, est une des choses les plus fortes du livre.
Une dernière question peut-être avant de une question qui me chiffonne aussi par rapport à l'ONF et après on pourra procéder à une discussion avec la salle. On comprend assez bien les raisons historiques ou socio-politiques de l'implantation de ce programme Challenge for Change dans les années, à la fin des années 60, quand on pense aux années 60, à la politisation de la société civile, des pratiques artistiques, qui étaient assez fortes à cette époque-là, les droits civiques, l'opposition à la guerre du Vietnam, le féminisme, tout ce contexte-là a fait que, et au Québec, la radicalité de l'action communautaire, parce que c'était un nid d'agitateurs, de marxistes, de subversifs, alors je pense qu'on avait tout intérêt à les institutionnaliser quand même, ces gens-là. Il y a un livre qui vient de sortir, je lisais ça dans Le Devoir en fin de semaine, sur l'histoire de l'action communautaire au Québec, qui est très intéressant parce que c'est vraiment dans le débat ici, où, j'oublie le nom de l'auteur, excusez-moi, j'aurais pu vérifier quand même, mais c'était juste au-dessus de l'annonce de cette table ronde dans Le Devoir du samedi, un ouvrage d'un collègue de l'UQAM et qui fait l'histoire justement du mouvement communautariste au Québec, et il explique que, on est plus aujourd'hui dans la gestion, et il fait toute l'historique donc de ça, et je pense que ça peut être intéressant pour comprendre pourquoi les politiques gouvernementales, le Canada et ensuite l'ONF, via son agence fédérale, l'ONF, ont décidé qu'il fallait qu'ils prennent ça en main et qu'ils utilisent ça de manière, comme tu le disais, positive, mais aussi dans un certain, et là, moi, c'est plus dans un esprit aussi de contrôle tout de même, de contrôle social, parce que on parle de lien social, mais moi, je suis plutôt quelqu'un qui est obsédé par le contrôle social, donc là, c'est une autre question. Mais l'ONF, c'est aussi ça, c'est aussi ça. Et moi, ce qui m'intéressait par rapport à l'ONF de façon plus générale, c'était pourquoi ça s'est interrompu, ce programme, hein, il s'est interrompu. Est-ce que on peut associer ça c'est même pas une sensibilité, mais au passage finalement de l'État-providence au néolibéralisme avec les années 80 et avec tout ce que ça implique et qui expliquerait, bon, je pense que c'est soulevé dans votre ouvrage quand même, Thomas Foy, vous êtes assez, vous ne l'êtes pas ici à cette table, mais dans l'ouvrage, comme je le disais au début, c'est assez, des prises de position quand même politiques. Et moi, j'étais étonnée d'ailleurs en lisant votre ouvrage, je ne pensais pas qu'on parlait de New Left par rapport au programme Challenge for Change. Ça m'a quand même, je ne pensais pas qu'on pouvait aller jusque-là, Nouvelle Gauche à l'Office national du film, mais bon, c'est des choses que j'ignorais. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre la fin de ça et une nouvelle pratique documentaire? Est-ce qu'il y a eu une nouvelle pratique documentaire, au fond, ou quel est le legs de ces années-là, hein, de cette sensibilité-là à l'Office national du film?
Je pense que oui, c'était d'une certaine façon la fin de l'État-providence, la fin de l'époque Trudeau qui se présentait un peu. Je pense qu'il y a eu une genre de fatigue à l'ONF à la fin des années 70 ou au milieu des années 70. Les baby boomers ils étaient plus âgés maintenant, ils avaient leur famille, ils voulaient pas aller au Fogo Island tourner des films. je pense que l'époque de la nouvelle droite était en vue. Ronald Reagan était sur l'horizon d'une certaine façon, même Brian Mulroney. Et je pense que les courants, les vagues durent à l'ONF, comme n'importe où, pour peut-être une dizaine d'années, et on va essayer quelque chose d'autre. Je pense que celui, le directeur, Peter Katadotis, qui a précédé sur la fin du programme, était vraiment fatigué. Il était un travailleur communautaire marxiste à l'époque. Il est devenu ensuite un chef de studio à l'ONF. Peut-être sa carrière symbolise un peu ce qui est arrivé à Challenge for Change. On ne sait jamais. Et je pense qu'il y a eu un retour à l'expression artistique. Si on voulait, en années 60, début années 70, expérimenter avec l'abdication de la création individuelle, je pense qu'on voulait re-expérimenter avec cet esprit. Donc, vers le milieu des années 70, on voyait plus de films au sein de Challenge for Change qui étaient de cet esprit individuel plutôt que collectif. Et surtout au côté francophone, où les auteurs comme Poirier et Marcel Carrière et quelques autres prenaient les rênes du programme un peu.
Oui. Merci. Je pense que c'est le moment de peut-être d'inviter les gens dans l'audience à poser des questions, faire des commentaires, apporter des éléments qui nous aideraient à nous y retrouver aussi dans cette histoire de l'Office national du film ou dans la question de la fonction sociale, la portée sociale du documentaire. Alors, s'il y en a qui veulent se lever, parce qu'il faut se lever et parler au micro, hein, on m'a bien averti, puisque c'est enregistré, donc le micro est au milieu de vous. Alors, je vois que Carole Fauché se prépare à se lever. Non? Oui? Alors, je ne fais pas de pression, hein. Il y a eu un mouvement de ta part, Carole. Carole Fauché.
Oui, merci. Alors, moi, j'ai travaillé à l'ONF pendant 26 ans jusqu'à l'an dernier. J'ai bien connu, j'étais pas là au moment du début de Société Nouvelle, mais quand même, je pense que Société Nouvelle, il faut se rappeler d'abord une chose, c'est que l'ONF, qui est arrivé à Montréal en 1956, avait des cinéastes permanents qui travaillaient pour l'ONF. Donc, ça créait une communauté de réflexion très dynamique, tant chez les, j'imagine, chez les anglophones que chez les francophones. D'autre part, en 1967, je pense, le gouvernement fédéral lance un programme de lutte contre la pauvreté. Et c'est vraiment ça qui est l'étincelle qui fait que, du côté de l'ONF, les cinéastes, qui commençaient déjà un peu à... Là, je parle surtout du côté francophone, qui... Il y avait Raymond Garceau, par exemple, qui est un cinéaste que Grierson avait... qui était agronome, que Grierson avait convaincu de venir travailler à l'ONF parce que Grierson, il voulait toutes sortes de monde, des avocats, des gens spécialisés, puis il leur montrait après comment faire le cinéma pour retourner à travers le Canada pour faire des films selon un peu leur spécialité. Alors, Garceau, en 1965, avec le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, avait fait une série de films le long du fleuve pour étudier les problèmes économiques des gens qui vivaient du fleuve, de la pêche et des choses comme ça. Et ça, c'est en 65. Donc, il y avait déjà une réflexion de travailler avec les communautés. On faisait des films, on allait leur montrer ce qu'on pensait, puis on établissait des discussions avec cette communauté-là pour voir si, avec le cinéma, on pouvait pas les aider un peu à améliorer leur sort. C'était un peu le même principe dans Société Nouvelle, Challenge for Change. Alors, avec le programme de lutte contre la pauvreté, disons que les antennes de plusieurs personnes à l'ONF ont capté ça, et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme institution, qui avons des moyens de communication très forts, qui est le cinéma. À l'époque, c'était pas encore le porte-à-pâques. Alors, ils sont retournés au gouvernement, et là, ça a été fondamental aussi, c'est qu'il y a 7 ministères du gouvernement fédéral qui se sont impliqués financièrement pour donner l'argent au programme. Et je me souviens pas comment le programme s'est terminé, mais peut-être que justement, ces ministères ont décidé que c'était assez, on ne subventionnait plus maintenant le programme, et que le programme... Mais je pense que c'est une réalité économique au départ. Mais la lutte contre la pauvreté, c'était l'option sociale, si on veut. Alors, c'était donc à l'intérieur de ça que... Et là, les gens des ministères, ils siégeaient sur des comités, hein, pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire et tout. C'était très, très sérieux et très... Vraiment, on suivait ça de très, très près. Et l'attitude des gens de l'ONF, ça a été un peu de faire en sorte d'éloigner ces gens des ministères qui pouvaient dire quoi faire ou aller faire ci ou ça. Et ils ont développé eux-mêmes leur perspective. Et finalement, il y avait suffisamment de réflexion, tout ça, pour faire démarrer la chose, qui a duré jusqu'en 76 à peu près, ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, si aujourd'hui on se pose la question, est-ce qu'on pourrait refaire Société Nouvelle, on n'a pas l'argent pour le faire, un programme spécifique comme ça. Et d'autre part, il n'y a plus de communauté permanente à l'intérieur de l'ONF. Mm-hmm. Les gens viennent, ils font leurs films, ils font le montage, ils s'en retournent. Alors, les échanges entre les cinéastes, les producteurs et tout ça, c'est plus difficile, disons. D'autre part, pour l'histoire du porte-à-pâques, de la vidéo, il faut peut-être... j'ai revu cette semaine à la Cinémathèque un film de Claude Jutras, fait en 1965, qui s'appelle « Comment savoir ?» C'est un film qui a tourné en Californie au niveau des enfants qui à l'école primaire, qui commencent à travailler avec l'ordinateur, avec toute l'informatique qui arrive. Et là, c'est à ce moment-là que les caméras vidéo se développent aussi. Et quand Claude Dutra, il fait son film, qui s'appelle Wow, il utilise la vidéo à l'intérieur du film. Et il fait des expériences comme ça. Et le producteur de ce film-là, c'est Robert Forgette. Robert Forgette, qui va être une personne très importante aussi dans la Société Nouvelle, parce que c'est lui qui va fonder le vidéographe sur la rue Saint-Denis et la ciné-robothèque qu'on a aujourd'hui au coin de Saint-Denis-Maisonneuve. Donc, Forgette est aussi une personne très, très importante. C'est un esprit innovateur et de recherche constante. Et donc, Fernand Lancereau, Forgette, Michel Régnier comme caméraman, ça a été vraiment une équipe très solide et qui ont marqué le pas pour Société Nouvelle. Et il y a eu des programmes importants comme En tant que femme, effectivement, où Anne-Claire Poirier a fait travailler beaucoup les femmes et les a formées aussi en tant que cinéaste et en tant que technicienne et tout. Donc, ça a été... Bon, il y aurait peut-être d'autres choses à dire, mais en tout cas, je voulais ramener surtout la dimension de l'appui économique du gouvernement et d'un programme qui est lié à un programme plus grand. À cette part, je ne sais pas s'il y a peut-être eu, à travers le Canada, d'autres actions dans d'autres domaines pour la lutte contre la pauvreté, mais à l'Office, l'Office, ça a été le programme Société Nouvelle Challenge for Change. Voilà, pour l'instant.
Mais oui, d'ailleurs, je voulais simplement vous dire que dans les archives que j'ai consultées sur les premiers sur les projets de films de Bulbulian, on en parlait tout à l'heure, c'est le programme de lutte à la pauvreté qu'il met en avant pour faire passer son idée de petite Bourgogne et de Lendemain c'est comme hier, qui à l'époque s'appelait d'ailleurs Économiquement vôtre. Donc il y a avant qu'il fasse Lendemain c'est comme hier, où il suit cette famille, il avait le projet de faire un film qui s'appelait Économiquement vôtre, qui était lié au programme de lutte contre la pauvreté et qui était une sorte de film réflexion sur les moyens qu'une famille pouvait se donner pour s'en sortir et le rôle que pouvait jouer à ce moment-là leur maîtrise des instruments de communication pour leur permettre de réfléchir sur eux.
C'est ça.
Donc il y avait quelque chose qui pointait de quelque chose de très intéressant. Il disait finalement, si on veut vraiment lutter contre la pauvreté, il faut que ceux qui sont dans la pauvreté et les moyens de réfléchir sur leur propre situation. Et ce moyen de réflexion, c'est l'image qu'il va leur donner. Il insistait énormément sur le fait que ces gens-là voient les images qu'ils faisaient d'eux. Mmh. Et donc, il y avait toute cette réflexion-là de Bulbulian à partir de ce grand programme et sur les moyens spécifiques du cinéma que le cinéma pouvait apporter, en fait.
Et c'est allé assez loin parce que pour certains films, on allait voir la communauté, appelons-la comme ça, puis on disait, on va faire un film ensemble, vous allez vous asseoir avec nous, vous allez être les scénaristes des films. Fernand Lancereau en a fait un Thetford Mines comme ça, Léonard Forêt en a fait un Acadie. Alors, c'est une participation communautaire même à la création du film même. Alors, c'est pour dire que l'engagement, au fond, des cinéastes allait assez loin. On allait jusque-là. Mais il faut dire que dans ces années-là aussi, au Québec, ça brassait pas mal fort. En 70, ça sautait encore dans les boîtes aux lettres, les bombes. Et donc, il y avait un climat. Le maire Drapeau avait dit à un moment donné, si le parti dont j'ai oublié le nom est élu, le sang va couler dans les rues. Alors, là, il y avait une réaction de la part des cinéastes aussi, devant ça, en disant, un instant, là, on va tempérer ça, ou on va faire notre part, nous, pour que ce genre d'affirmation-là, on passe par-dessus, on fasse d'autres choses, là, vraiment. Alors, bon.
L'État libéral a su véhiculer un peu cette énergie, cette colère dans la fabrique des films. Hein?
Oui, je pense que oui. Et on posait la question depuis 1980, ça a changé et tout, mais en 1980... C'est drôle, je m'excuse, je prends le micro trop longtemps, là, peut-être. Les cinéastes francophones avaient une attitude aussi de dire, il faut créer une cinématographie nationale, québécoise. Or, avant 1967-68, où il y a eu la création de la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne, il n'y avait pas d'institution, il n'y avait pas de gros producteurs, c'était l'ONF qui était le plus gros producteur. Donc, on voulait faire des films de fiction aussi pour les salles et tout. Et c'est pour ça qu'il y a une partie des gens qui suivaient un peu ce qui se faisait à travers le monde par le Festival du film de Montréal à l'époque, qui disaient, nous aussi, on est capable de faire des films, puis de traduire notre réalité à l'écran en faisant des films qu'on va distribuer ici et à travers le monde. Donc, il y a beaucoup de cinéastes qui, les préoccupations esthétiques et de long métrage et de dramatique existaient beaucoup chez les cinéastes de l'ONF aussi. Mais en 1980 aussi, c'est le premier référendum. Et là, après ça, c'est vrai qu'il y a eu quand même un changement. On aurait dit que il y avait une dynamique sociale qui s'en allait vers quelque chose. Puis on aurait dit qu'en 1980, ça a fait pchut, comme ça. Ça a diminué. Puis là, les gens, bon, on dit, on va faire du cinéma quand même et tout. Et c'est vrai que ça a changé. Mais les cinéastes qui étaient vraiment engagés ont continué, je pense, un peu à faire comme Maurice Bilbilian. Lui, il a décidé un jour qu'il ne ferait des films qu'avec les Autochtones. Alors, il est allé chez les Inuits, il est allé partout. Il est allé chez Montagnier, il est allé en Colombie-Britannique. Et lui, ce qu'il voulait faire, c'est des films... Il voulait lutter contre l'injustice. C'était ce qu'il guidait, l'injustice sociale et tout. Alors, il a vraiment... Ça a été son créneau jusqu'à la fin. Donc, c'est un engagement de toute une carrière, finalement, comme ça. Je m'excuse merci d'avoir Carole. Pris le micro aussi loin. Carole Fauché.
Mais pour ajouter simplement par rapport à ce que disait Carole, je crois quelque chose de très important, et ce que j'ai un peu vu aussi pour faire le pont avec ce qui se fait maintenant ou ce qui ne se fait pas maintenant, effectivement il y avait des permanents. Donc un esprit, l'idée qu'une communauté pouvait se former en faisant quelque chose, et du cinéma. Et ce que j'ai cru voir, moi, effectivement, dans cette dynamique, c'est puisque nous nous sommes fait une communauté au sein de l'ONF, nous, en tant que cinéastes, producteurs, etc., puisque nous fonctionnons, nous arrivons à fonctionner et à inventer, finalement, notre propre communauté de cinéastes, on aimerait, propager ça à l'extérieur. Et toute la dynamique à l'époque, c'était comment intégrer le public à ce communauté, à cette communauté-là qui existait au sein de l'ONF, comment faire qu'il y ait, d'une certaine manière, une propagation communautaire, une ouverture ces communautaires, où on ne soit pas simplement replié entre nous. Alors qu'aujourd'hui, puisqu'effectivement on n'a pas ce genre de ni à l'ONF ni ailleurs, ce genre de communauté qui fonctionne, qui arrive à se développer et à se percevoir comme communauté parce qu'ils font des choses ensemble, et qu'ils les font, et ce sont des films, il y a aussi la preuve de ça. Ben, on est en train d'inventer d'autres manières de faire du cinéma c'est communautaire, mais qui passe peut-être effectivement à ce moment-là par ce qu'on appelle les réseaux sociaux, le web 2.0, etc. C'est-à-dire qu'il faut bien d'abord réinventer peut-être ou recomposer ce communautaire-là, même avec les cinéastes eux-mêmes. C'est-à-dire comment les cinéastes peuvent faire communauté entre eux. Je crois qu'en 1960, ils faisaient communauté, justement parce qu'ils étaient permanents et qu'ils vivaient ensemble et qu'ils travaillaient ensemble.
Oui, c'est aussi une façon de voir Studio D, parce que les femmes se sentaient vraiment la communauté.
Oui, c'est ça. Oui.
Et c'est là, ils ont vraiment canalisé l'esprit originaire de Challenge for Change dans Studio D, et c'est la réussite des années 80, après la mort du Challenge for Change.
Oui, tout à fait.
Oui, je voulais rajouter d'ailleurs que, bon, ce qu'on dit par rapport à cette communauté de cinéastes, je repensais à un ouvrage qui est sorti en 89, un petit ouvrage qui s'intitule « Les 50 ans de l'ONF ». C'était une série d'entrevues menées par Richard Gay en 89 à Radio-Canada avec des personnalités de l'Office national du film, et dans une des entrevues radiophoniques qui a été publiée par après dans un ouvrage, cet ouvrage publié, je me souviens pas de l'éditeur, Jacques Godbout insiste très très longtemps sur cet esprit communautaire de communauté qui régnait en tout cas du côté
des cinéastes francophones à partir de des premiers cours du direct jusque dans les à la fin des années 70, et il a véritablement un ton tragique, très très déceptif par rapport au démantèlement pour toutes sortes de raisons de cette communauté de cinéastes, et les raisons à ça sont assez multiples, mais je sais pas si c'est juste des raisons économiques. Moi, avec ma paranoïa sociale, il faudrait peut-être qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer du point de vue de la direction. Là, je connais pas assez l'histoire de l'ONF pour savoir, et Jacques Godbout entre pas non plus dans les détails, mais c'est vrai qu'il s'est joué là quelque chose de tout à fait fondamental, et qui fait que c'est une période, c'est là-dessus que j'insistais au début de cette séance, qui est une période qu'on appelle l'âge d'or, mais qui fait que on publie sur cette période à preuve ces deux ouvrages dont on parle ici aujourd'hui. Alors je voulais je vais pas prendre trop le micro moi non plus, je voulais proposer Viva Pachi de l'UQAM. Bonjour Viva.
C'est très agréable, c'est très communautaire, il y a tous les amis ensemble. J'avais deux questions un peu institutionnelles, en fait, comme je ne connais pas du tout ces programmes de l'ONF. Donc, une première question, il s'agissait donc des années 60, c'est une période durant laquelle, de parlement occidental, on a beaucoup de confiance en la télévision. On espère que la télévision puisse faire de bonnes choses éducatives. Et donc, je me demandais si ces programmes politiquement progressistes avaient des liens institutionnels avec la télévision. Est-ce que les programmes passaient aussi à la télé? Quel type donc de présence dans les palimpsestes télévisuels? Ça, c'était une question institutionnelle. L'autre, dans l'autre continent, en 56, donc M. Carole Fauché nous a rappelé que les studios ouvrent à Montréal en 56, c'est l'année où à Londres on programme le premier cycle des moyens-métrages documentaires du Free Cinema, qui sont financés par le British Film Institute dans un fonds particulier qui est pour le cinéma expérimental, mais au bout du compte, ils viendront, disons, marquer le renouveau du documentaire. Or, la portée politique, sociale n'est pas du même ordre, n'est pas si explicite, on travaille beaucoup plus au niveau de la forme, disons, on va libérer le documentaire d'une façon formelle qui aura un impact social. Mais bon, tout de même, c'est un moment important durant ces 4-5 ans, je pense, de programmes Free Cinema qui sont projetés donc dans des salles cinématographiques, et les auteurs vont par la suite passer à la télévision. Donc c'est à la BBC, surtout dans un programme qui s'appelait The Wednesday Play, qu'ils vont produire des objets socialement plus engagés. Alors, aussi savoir si en connaissant les programmes ONF, on connaissait des relations externes avec le BFI et en particulier avec ces programmes du Free Cinema. Donc la relation au cinéma britannique avec Grierson est évidente, mais le Free Cinema c'est un peu, disons, l'autre côté du BFI, c'est pas le côté Grierson. Donc on connaît les relations ONF-Grierson, mais peut-être les relations ONF-Free Cinema dans ces programmes dont vous vous intéressez. Voilà.
Moi, ça va être court, donc. Oui, la télé. Donc, on évoquait Robert Forger tout à l'heure. Je pense que c'est très important dans ce point de vue-là, parce qu'il y avait deux rapports à la télé possibles à l'époque. Bon, les films dont on parle dans les années, c'était fin 60 quand même. C'était 67, 68, 69. C'était pas au tournant des années 60. Dans ces moments-là, il y avait quelques passages à la télé, notamment des films de Bubulian et de Dansereau qui sont passés à Radio C'est Canada, parce qu'il y avait des accords entre la télévision de Radio C'est Canada et l'ONF pour alimenter Radio C'est Canada en programme. Donc il y avait quand même quelques accords, sauf que à l'intérieur du groupe de recherche sociale et à l'intérieur de Challenge for Change, ils rêvaient d'une autre télévision, et ils ont implanté ce qui était les premières télévisions communautaires au monde, et ça a été quelque chose qu'a porté à bout de bras Robert Forger, et qu'il a d'abord imaginé, puis après il a imaginé le vidéographe comme étant l'institution qui allait pouvoir alimenter cette télévision communautaire qui allait être consacrée à la diffusion de ces films faits au vidéographe. Enfin, il y a à cette époque-là, il y a l'invention au Québec, parce que je pense que c'est, enfin, les historiens s'accordent pour dire ça, de la câblodistribution communautaire, en lien donc avec ces programmes qui sont aussi les programmes de Challenge for Change et de Vidéographe. Donc oui, il y a eu une invention de la télé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on ne se satisfait pas des télévisions d'État et on veut inventer une autre télé. L'autre question.
C'était vraiment le grand espoir de l'époque, la télévision communautaire, et c'était aussi la grande déception. Oui. Par la fin des années 70, c'était la fin. Hein? Le câble, la télévision câble communautaire s'est révélé comme dépotoir de rien. C'était une manipulation commerciale des nouveaux producteurs de cette époque. Donc
un problème de financement de cette télévision financée par les gens.
Et même cette utopie de accès à la télé, une de tes collègues, Will Janine, à l'époque à McGill, a dit « Access is not agency ». Et c'était « Access n'est pas la agency ».
On ne sait pas comment traduire ce terme en français.
Non. Et c'est cette découverte qui a été vraiment amère à l'époque. En ce qui est le free cinéma, je crois que les cinéastes de l'équipe française le connaissaient un peu, mais ils étaient probablement, à mon avis, plutôt d'accord avec Truffaut, qui disait que les Britanniques et le cinéma étaient un oxymoron. L'esprit ici était tellement différent, l'utilisation du son synchro qui intéressait vraiment pas les Britanniques à l'époque. C'était tellement important ici. C'était plutôt du côté français que les influences sont importées. Oui, Michel Beau a travaillé à New York et aussi à Paris, mais jamais à Londres.
Mm-hmm. Mais si je peux juste poser une petite question de nuance, alors c'est quoi le rapport entre le cinéma direct de la fin des années 50, début des années 60, québécois, puis Challenge for Change, Société Nouvelle? Est-ce que le deuxième est une suite logique du premier ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de différent?
À mon avis, ça, c'était une suite logique. C'était taken for granted par 1967. Le direct était déjà entronné comme outil très, très commode. Et tout le monde qui travaillait en 67, comme Tanya Ballantyne, le prenait pour acquis. Ils sont pas souvenus de l'époque il y a 10 ans où on devait travailler avec le son double système.
Oui, non, c'est vrai. Non, le direct, effectivement, ça a été un outil pour Challenge for Change parce que c'était très mobile. La caméra, le son, on pouvait tout porter ça sur soi. Et donc, on pouvait aller dans les cuisines, on pouvait aller dans les sous-sols, partout filmer. Et justement, au niveau des pellicules aussi, il y avait des pellicules sensibles. Donc, on n'avait pas besoin d'installer des lumières incroyables pour faire des images. Et Michel Brault était convaincu de ça. Lui, il faisait que un peu survolter même les ampoules électriques dans les maisons des gens. Puis, il tournait là avec une pellicule très sensible. Et ce qui réduisait d'ailleurs le nombre de personnes de l'équipe, avec 3 personnes pour faire un film. Donc, de cette façon-là, il ne gênait pas beaucoup les gens qu'il filmait, parce que l'appareil cinématographique était réduit au minimum. Donc, les gens étaient plus naturels et tout ça. Donc, effectivement, le direct, et ça a aidé beaucoup en Société Nouvelle. Et pour la télévision, ben, moi, ce que je me souviens, c'est que les cinéastes de Société Nouvelle, quand ils faisaient des films, après ça, ils étaient obligés de partir avec leurs films et d'aller rencontrer les gens dans les partout, dans les salles communautaires et tout. Donc, pour eux, la priorité était là et non pas à la télé. Quand il y avait des programmes plus définis, si on veut, comme Anne-Claire avait fait son programme en tant que femme, bon, les films ont passé dans les créneaux à la télé, parce que là, c'était très précis, circonscrit, on disait on a 4 films de tant de minutes et on peut programmer ça à la télé d'une façon, on peut prévoir. Et les autres cinéastes qui faisaient pas partie de Société Nouvelle ou de Challenge for Change, ou en tout cas, je veux dire, dans la mouvance de cette de ce travail-là, tous les cinéastes, là, Denis Arcand et Pierre Perrault, quand il fait Un pays sans bon sens, il est pas dans Société Nouvelle, mais il l'est quand même,
oui.
dans son esprit, et à un tel point que même Radio-Canada interdit le film. Le film devait sortir sur la rue Sainte-Catherine dans un grand cinéma, et on a maintenu Gone with the Wind 2 semaines de plus pour éviter que le film prenne l'affiche, parce que on était en 70, les événements d'octobre, là, il faut faire des liens avec tout ce qui se passait dans la société à ce moment-là. Et donc, Pierre a été... son film, ça a pris je sais pas combien d'années avant que la télévision le monte. C'est 20 ans ou je sais pas quoi. Ça a été vraiment... Donc, puis le film de Denis Arcand, On est au coton, quand la crise a été passée, là, en 1976, il y a un nouveau commissaire qui est arrivé à l'ONF, il a dit « Bon, OK, là, je suis gentil, moi, je vais enlever toutes les censures sur les films. » Alors, il y en avait 3. Il y avait le film de Gilles Giroux, 24 heures ou plus. Il y avait « On est au coton » de Denis Arcand. Et il y avait un film de Jacques Leduc qui s'appelait « Cap d'espoir », effectivement. Où là, la censure était là parce que le ton était plutôt, comment dire, tellement direct que je pense que ça gênait beaucoup de monde aussi, la façon dont les gens parlaient et tout. Mais c'était dans le ton de l'époque un peu aussi. Et là, donc, ça s'est calmé. On est près des années 80. On voit, là, ça commence à changer.
Merci, Carole. Marion, tu voudrais dire le mot de la fin, peut-être?
Oui, simplement pour ajouter par rapport à la question de Viva, qui était très pertinente, c'est que, bon, je parlais de Forger tout à l'heure, ils ont inventé effectivement la télé communautaire qui s'est un peu pris les pieds dans les fleurs du tapis, je dirais, pour des problèmes de financement, parce que qui finançait la télé communautaire? Les gens du pays, qui avaient l'argent au pays, ceux qui avaient des annonces à faire. Donc, en gros, ça devenait quelque chose comme une sorte de commerce local, de promotion du commerce local, ou des problématiques locales. En revanche, ce qu'ils ont fait, ce que Robert Forger a fait, ce qu'il a inventé, c'est la télévision, c'était pas la télé, mais c'est le service de film à la demande. C'est-à-dire qu'il avait imaginé toute une série de fiches pour le vidéographe pour que n'importe qui veuille avoir un film puisse le demander, puisse le faire jouer éventuellement sur le canal communautaire en question, ou alors se le faire livrer chez lui, dans son salon, pour faire une projection de ses collectives avec des amis, et puisse le ramener et le rapporter. Donc il avait en fait inventé la télévision par réseau, entre guillemets, mais de façon avec... bien sûr, pas avec le moyen informatique, avec la poste, hein, on envoie une cassette. On envoie une cassette à ceux qui la demandent, ou alors on utilise le réseau communautaire parce que dans ce réseau-là, il y avait des plages réservées à la demande du public, en disant ce jour-là, ben on aimerait voir tel film ou tel film ou tel film. Donc ils ont eu aussi une sorte de vision de ce que la télévision est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire la vision par la télévision sur demande à la carte avec les films que on se projette comme ça. Il y avait quand même cette idée-là qui était derrière. Et qui n'a pas été très fonctionnel, mais qui existe en tout cas dans les archives. Moi, j'ai lu les projets de ces archives-là.
C'était pas des cassettes VHS, Marion, non, c'était quoi, des pneumatiques,
oui,
des trois quarts de pouce.
Ah oui, pas très technique.
Eh bien, je remercie tous nos invités, Thomas Soye, Marion Froger, Will Straw et l'audience. Merci beaucoup d'avoir été là. Et bon visionnement des films de l'ONF.